Bonjour à tous les Auroviliens, mes frères et sœurs d'Auroville et du monde entier. Alors aujourd'hui, je vais vous lire de Sri Aurobindo, l'idéal de l'unité humaine, la traduction de l'anglais par mère. L'idée fondamentale peut s'énoncer ainsi. L'humanité est la divinité que l'homme doit adorer et servir. Le respect, le service, le progrès de l'être humain et de la vie humaine sont le devoir principal et le but principal de l'esprit humain. Nulle autre idole ne peut doit prendre sa place, ni la nation, ni l'État, ni la famille, ni rien d'autre. Et ceux-ci ne sont dignes de respect que dans la mesure où ils sont des images de l'esprit humain consacrant sa présence et aidant à sa manifestation. Mais lorsque le culte des idoles cherche à usurper la place de l'esprit et montre des exigences incompatibles avec son service, il doit être rejeté. Aucune injonction des vieilles croyances, fussent-elles religieuses, politiques, sociales ou culturelles, n'est valable quand elle contredit les droits de l'esprit. La science elle-même, bien qu'idole, en chef moderne, ne doit pas être autorisée à avoir des exigences contraires au tempérament éthique de l'esprit et à ses fins morales, car la science n'a de valeur que dans la mesure où par la connaissance et le progrès, elle aide et sert la religion de l'humanité. La guerre, la peine de mort, la destruction de la vie humaine, la cruauté sous toutes ses formes, qu'elle soit commise par l'individu, l'État ou la société, et non seulement la cruauté physique, mais la cruauté morale, la dégradation de tout être humain et de toute classe d'êtres humains, sur n'importe quel prétexte spécieux ou n'importe quel intérêt. L'oppression et l'exploitation de l'homme par l'homme, d'une classe par une autre, d'une nation par une autre, et toutes les habitudes de vie, toutes les institutions sociales du même genre que la religion et la morale ont pu tolérer autrefois, ou même favoriser en pratique, quoi qu'elle soit, quoi qu'on en dise, dans leurs règles ou leur credo idéal, sont des cimes contre la religion de l'humanité. Abominable à sa pensée éthique, interdit par ses principes primordiaux, ils doivent être combattus et jamais, à aucun degré, tolérés. L'homme doit être sacré pour l'homme, indépendamment de toute distinction de race, de croyance, de couleur, de nationalité, de statut, de position politique ou sociale. Le corps de l'homme doit être respecté, protégé de la violence ou des outrages, fortifié par la science contre la maladie ou contre une mort évitable. La vie de l'homme doit être tenue pour sacrée, garantie, fortifiée, ennoblie, exaltée. Le cœur de l'homme doit être considéré comme sacré aussi. Il doit avoir le champ libre, être protégé de toute profanation, tout étouffement, toute mécanisation, et libéré des influences amoindrissante. Le mental de l'homme doit être délivré de toute entrave. Il doit avoir la liberté, l'espace et des facilités. Recevoir tous les moyens d'éducation et de développement et organiser le jeu de ses pouvoirs au service de l'humanité. Et en outre, tout ceci ne doit pas être considéré comme un pieux sentiment ni comme une abstraction, mais même pratiquement et pleinement reconnu en la personne des hommes, des nations et du genre humain, telle dans ses grandes lignes l'idée ou l'esprit de la religion intellectuelle de l'humanité. Il suffit de comparer la vie de l'homme, sa pensée, ses sentiments il y a un siècle ou deux, avec sa vie, sa pensée, ses sentiments dans la période d'avant-guerre, pour voir combien l'influence de cette religion de l'humanité a été grande et comme son travail a été fructueux. Elle a accompli rapidement bien des tâches auxquelles la religion orthodoxe avait manqué, effectivement, et ceci surtout parce qu'elle a constamment agi comme un dissolvant critique et intellectuel, un adversaire impitoyable de ce qui est, un inébranlable champion de ce qui sera, toujours fidèle à l'avenir, tandis que la religion orthodoxe s'est alliée aux puissances du présent et même du passé, s'est enchaînée en pactisant avec elle et au mieux n'a su agir que sur une force de modération et non comme une force de réforme. De plus, cette religion a foi en l'humanité et en son avenir terrestre. Et par conséquent, elle peut aider au progrès humain sur la terre, tandis que les religions orthodoxes regardaient la vie terrestre de l'homme avec des yeux de pieuse douleur et d'affliction, et l'invitaient très expéditivement à supporter avec paix et contentement les grossièretés, les cruautés, les oppressions, les tribulations de cette vie, et même à leur faire bon accueil pour apprendre à apprécier et à gagner la vie meilleure qui lui sera accordée dans l'au-delà. La foi même, la foi intellectuelle, accomplit toujours des miracles, et en effet, cette religion de l'humanité, même sans avoir pris de forme corporelle, ni apparente, militante et sans moyens visibles de réalisation, a cependant été capable d'effectuer en grande partie ce qu'elle se proposait d'accomplir. Jusqu'à un certain point, elle a humanisé la société, humanisé la loi et les sanctions pénales, humanisé l'attitude de l'homme envers l'homme, abolit la torture légale et les formes les plus grossières de l'esclavage, relevé ceux qui étaient rabaissés et déchus. Elle a donné de vastes espoirs à l'humanité, stimulé la philanthropie, la charité et le service du genre humain, encouragé partout le désir de la liberté, mis un frein à l'oppression et réduit considérablement ses manifestations plus brutales. Elle avait presque réussi à humaniser la guerre et y serait peut-être parvenue tout à fait sans l'intervention contraire de la science moderne. Elle a permis à l'homme de concevoir qu'un monde sans guerre était imaginable sans qu'il soit besoin d'attendre le millénium des chrétiens. En tout cas, un certain changement s'est produit. au lieu d'une paix qui était un rare interlude, au milieu d'une guerre constante, la guerre est devenue un interlude encore trop fréquent, au milieu d'une paix qui n'est pas encore, au milieu d'une paix qui n'est encore qu'une paix armée. Ce n'est peut-être pas un grand pas, mais c'est tout de même un pas en avant. Elle a également apporté une nouvelle conception de la dignité de l'homme et ouvert des idées et des perspectives nouvelles à son éducation, son développement, ses potentialités. Elle a répandu la lumière, rendu l'homme plus sensible à sa responsabilité vis-à-vis du progrès et du bonheur de l'espèce. Elle a osé le respect de soi et les capacités moyennes de l'humanité. Cependant, si elle veut réaliser tout son avenir, cette idée ou cette religion de l'humanité doit rendre plus explicite, plus insistante, plus catégoriquement impérieuse. Simon, elle n'agira clairement que dans la pensée d'une élite, tandis que son influence sur la masse restera mitigée et elle ne deviendra pas la règle de la vie humaine. Et tant qu'il en sera ainsi, elle ne pourra pas prévaloir entièrement contre son ennemi principal. Cet ennemi, l'ennemi de toute religion vraie, est l'égoïsme humain. L'égoïsme de l'individu, l'égoïsme de classe et de nation. Elle a pu pour un temps adoucir ces égoïsmes, les atténuer, les forcer à mettre un frein à leurs manifestations les plus arrogantes et les plus visibles, les plus brutales. Elle a pu les obliger à adopter des institutions meilleures, non à céder la place à l'amour de l'humanité, non à reconnaître une unité réelle entre les hommes, car tel doit être essentiellement le but de la religion de l'humanité, comme ce doit être le but terrestre de toute religion humaine. L'amour, la reconnaissance mutuelle d'une fraternité des hommes, un sens vivant de l'unité humaine et une pratique de l'unité humaine dans la pensée, dans les sentiments, dans la vie. Tel est l'idéal qui fut pour la première fois exprimé dans l'ancien hymne védique il y a des milliers d'années et qui restera toujours la plus haute injonction de l'esprit en nous à la vie humaine sur terre. Tant que ceci ne sera pas accompli, la religion de l'humanité ne sera pas accomplie. Quand ceci sera fait, le seul changement nécessaire aura été réalisé. Le changement psychologique sur lequel aucune unité formelle, mécanique, politique et administrative ne peut être réelle et sûre. La question est de savoir si une religion de l'humanité, une religion purement intellectuelle et sentimentale, peut suffire à accomplir un aussi vaste changement dans notre psychologie. La faiblesse de l'idée intellectuelle, même quand elle s'appuie sur un appel aux sentiments et aux émotions, est de ne pas pénétrer au centre de l'être humain. L'intellect et les sentiments sont seulement des instruments de l'être. Ils peuvent être ou bien des instruments de la forme extérieure et inférieure, ou bien des instruments de l'homme supérieur et intérieur, des serviteurs de l'ego ou des transmetteurs de l'âme. Le but de la religion de l'humanité s'est formulé au XVIIIe siècle par une sorte d'intuition fondamentale. Ce but était et encore de recréer la société humaine à l'image de trois idées sœurs: liberté, égalité, fraternité. Aucune n'a été réellement conquise en dépit de tout progrès accompli. La liberté, tant proclamée comme essentielle au progrès moderne, n'est qu'une liberté extérieure, mécanique et irréelle. L'égalité, tant recherchée, pour laquelle on s'est tant battu, est elle aussi extérieure et mécanique. Et finalement, elle se révélera irréelle. Quant à la fraternité, elle n'est même pas considérée comme un principe pratical d'organisation de la vie. Et ce que l'on propose à sa place est un principe extérieur, mécanique d'association égale ou au mieux une camaraderie de travail. Ces échecs tiennent au fait que l'idée d'humanité en notre âge intellectuel a dû masquer son véritable caractère de religion, de mouvement de l'âme et de l'esprit, et s'adresser à la mentalité vitale et physique de l'homme au lieu de faire appel à son être intérieur. Ses efforts se sont bornés à vouloir révolutionner les institutions politiques sociales, à modifier les idées et les sentiments communs du mental humain, afin que ces institutions puissent recevoir une application pratique. Elle s'est efforcée d'établir une liberté, une égalité, une entraide mutuelle, politique, sociale et légale au sein d'une association égale. Ces buts ont une grande importance à leur niveau, mais ils ne sont pas la chose centrale. Ils ne peuvent être assurés que s'ils se fondent sur un changement de la nature intérieure de l'homme et de sa manière intérieure de vivre. En eux-mêmes, ils n'ont d'importance que s'ils aident à donner plus d'essor et de champ libre au progrès de l'homme vers un changement intérieur. Et une fois celui-ci accompli, s'ils deviennent l'expression extérieure d'une vie intérieure plus large, la liberté, l'égalité, la fraternité sont trois divinités de l'âme. Elles ne peuvent pas vraiment se réaliser par des mécanismes extérieurs de la société, ni par l'homme tant qu'il vit seulement dans l'ego individuel et dans celui de la communauté. Quand l'ego réclame la liberté, il arrive à un individualisme compétitif. Quand il revendique l'égalité, il arrive d'abord au conflit, puis il tente de fermer les yeux sur les variations de la nature et ne connaît d'autres moyens que de bâtir une société artificielle et mécanique. Une société qui cherche la liberté comme idéal est incapable d'arriver à l'égalité. Une société qui cherche l'égalité sera obligée de sacrifier la liberté. En parler de fraternité à l'ego, c'est parler d'une chose contraire à sa nature. Tout ce qu'il connaît, c'est une association à la poursuite de fins égoïstes communes. Et pourtant, la fraternité est la vraie triple clé évangile de l'idée. Et pourtant, la fraternité est la vraie clé du triple évangile de l'idée d'humanité. Voilà. Alors aujourd'hui, je termine la religion de l'humanité dans le livre « L'idéal de l'unité humaine » écrit par Sri Aurobindo, traduit en français par Tous Mères. Je remercie infiniment Sri Aurobindo et Mère pour cette sublime et merveilleuse lecture. Merci Priya, Ganga Lakshmi, House of Mother Agenda. Thank you.
This is Auroville Radio, voices from the City of Dome.